Quatre années s'écoulèrent. Jean Michelet portait à présent des lunettes à monture d'or, comme celles de Chilbeout. Le linge de corps était la seule partie de la toilette à laquelle il attachait de l'importance. Chaque matin, sa femme posait dans sa chambre une chemise blanche qu'il examinait soigneusement. Lorsqu'il l'avait mise, un rien faisait qu'il l'ôtait et en demandait une autre. Il était toujours vêtu d'un complet sombre fait sur mesure par un petit tailleur, plus sensible qu'il était à la qualité de l'étoffe qu'à la coupe. Ce penchant de son caractère se retrouvait dans les affaires qu'il traitait. Il se faisait toujours fort de découvrir les matériaux de premier choix dans des maisons inconnues, matériaux qu'il affirmait identiques, sinon supérieurs à ceux des maisons importantes comme Lebert ou Vercamen, plus soucieuses selon lui de la présentation que de la qualité. L'ensemble de sa personne respirait la santé, l'amour du petit détail, le désir de satisfaire sa clientèle, de plaire en société, l'ordre et la probité. L'ordre surtout était à ses yeux la qualité fondamentale de tout commerçant. Il découvrait du désordre chez ses amis les mieux organisés, car il avait des manies. Si autrui n'avait point les mêmes, cela prouvait de sa part un inconcevable désordre. Ainsi ne pouvait-il supporter que l'on posât quoi que ce fût sur une cheminée. Il lui fallait que la garniture, une pendule entre deux chandeliers de bronze par exemple, fût seule. C'était en somme des pièces d'art dont on diminuait la valeur en les entourant d'objets quelconques. Quand il rendait visite à un client ou à un ami et qu'il voyait des flacons sur la cheminée, fussent-ils soigneusement alignés par ordre de grandeur, il en concluait que ces gens n'avaient aucun ordre et supposait les pires choses dans les pièces où il ne pénétrait point. Avait-on idée de gâter la vue d'un tel objet par le voisinage de flacons? Qui s'aviserait donc de placer dans un salon des chaises de bois blanc? Jean Michelet parlait peu. À présent qu'il marchait sur le déclin, après une existence monotone, il n'avait plus qu'un but, gagner de l'argent et ne pas en dépenser. On s'était assez moqué de lui. Il y avait tout de même, sur terre, une justice. C'était à lui, maintenant, à être dur. Sans grandeur apparente, renfermé, toujours sur la défensive, il inclinait à croire que ses interlocuteurs essayaient de le tromper. Quand la conversation roulait sur un sujet qui, vraiment, ne pouvait l'amener à redouter qu'on ne lui demandât quelque service, il se méfiait quand même. M. Dossé, homme dont la situation était pour le moins aussi importante que la sienne, lui disait-il que Madame Auriol, une voisine, avait certainement possédé, jadis, une grande fortune, cela se discernant à des petits riens, que des soupçons lui venaient aussitôt. Si M. Dossé lui parlait en ces termes de Madame Auriol, n'était-ce pas qu'il ressentait à l'endroit de cette dernière un certain penchant et qu'il projetait de faire par lui, Jean Michelet, ce que lui, Dossé, l'avarice même, ne voulait point faire? Alors l'entrepreneur changeait la conversation. Il en avait d'ailleurs l'habitude. Il suffisait qu'une conversation s'éternisât pour qu'il lui semblât que quelque chose se tramait. Il se hâtait de trouver un autre sujet. On eût dit que seule la diversité le mettait à l'abri. Jean Michelet avait l'impression très nette de n'avoir été aimé ni compris par personne, d'avoir été écarté de tous les événements heureux. Enfant, n'avait-il pas remarqué que l'on avait toujours plus fait pour son frère que pour lui? Et Chibelout et Denise Vanier, ne l'avait-il point tourné en ridicule? Il ne doutait pas de l'affection que lui portait sa femme, mais eût-elle hésité entre son père et lui? C'était un mariage de raison, il ne fallait même pas lui en vouloir. En allant à Nancy, il se souvenait très bien qu'il n'avait jamais ressenti la moindre émotion. Elle acceptera. Si elle n'accepte pas, ce n'est pas grave. Avait-il chaque fois pensé dans le train? Justement parce qu'il ne l'avait pas désiré, elle avait accepté. En définitive, ne se liait-on pas avec lui parce qu'il avait une situation enviable? Enfin, pourquoi aujourd'hui tant d'amis? Pourquoi une femme? Pourquoi tant d'occupations? Alors que jadis, seul à Paris, il ne trouvait même pas un voisin à qui se confier. Il approchait de la vieillesse. Pourtant, c'était comme à un jeune homme qu'on lui parlait. Tous étaient sans aucun doute intéressés. Eh bien, il le serait aussi. Par un reste de fraîcheur, il s'appliquait cependant à ne point laisser paraître le fond de sa pensée. En face d'autrui, il demeurait aimable et souriant, ce qui prêtait à sa personne un air ambigu. car à certains moments, sa pensée finissait tout de même par percer, et, une fois mêlée à son aspect extérieur, l'ensemble créait de la gêne. On ne sait jamais ce qu'il pense, s'il a envie de vous envoyer promener ou de vous serrer dans ses bras, disait-on de lui. À l'instant où, après avoir froissé un camarade, ce dernier s'apprêtait à le quitter en songeant « Qu'il est peu sympathique !» Le visage de Jean Michelet s'éclairait durant quelques minutes et, comme pour se faire pardonner, il ne savait que dire pour plaire à son compagnon. Devant cette nouvelle attitude, celui-ci oubliait et trouvait même quelque plaisir à rester. Mais ce n'était toujours qu'un feu de paille. Une expression bizarre ne tardait pas à se peindre de nouveau sur le visage de l'entrepreneur. Pourtant il parlait, mais comme l'amoureux sentimental soudainement froissé, sans feu, prononçant des paroles aussi aimables que celles qui avaient précédé, mais l'esprit absent, tellement absent que jamais il ne se douta qu'on remarquait ses sautes d'humeur. Lorsque Jean Michelet fut arrivé devant sa villa, il la contempla un instant. C'était une maison d'un étage, construite en pierre meulière, ayant un vaguère de cottage. Puis il examina la tige de fer de la sonnette, maintenue au mur par deux anneaux dans lesquels elle se mouvait en grinçant quand on sonnait. Il la tira. Elle résista. Il tira plus fort. Finalement, un tintement retentit dans la villa. Sans regarder Madeleine, la bonne, Antoinette l'appelait Mado, qui venait ouvrir, car cette porte, jour et nuit, était soigneusement cadenassée, l'entrepreneur ayant voulu qu'il fût aussi difficile de pénétrer dans un jardin que dans un appartement, il continua d'examiner la tige de métal. « C'est bien cela, marmonna-t-il. On s'adresse aux maisons les plus importantes et on est volé la même chose. Je vais leur écrire. Ils se dérangeront. Ils verront ce que ça leur coûte de livrer du travail mal fait. Ferronnier. Et ça s'intitule Ferronnier. » Madeleine, après avoir ouvert, était repartie, non sans avoir accueilli son maître par un « Bonjour, monsieur », plein d'indifférence. C'était une jeune fille de 18 ans qui ne vivait qu'en pensant aux relations qu'elle aurait un jour avec un homme, en y pensant avec une telle intensité que ses moindres gestes semblaient ceux d'un automate, son regard celui d'une illuminée. Jean Michelet entra dans le jardin, puis, avant de fermer la porte, fit jouer avec satisfaction la serrure Tenax. C'était la meilleure marque. La maison finie, il avait voulu qu'elle fût bien défendue. Enfin, il se dirigea, à travers le jardin, vers la villa, mais sans même jeter un coup d'œil sur la véranda où il savait pourtant que se tenait sa femme. Ce n'était pas par indifférence ni par distraction qu'il agissait ainsi, mais par sérieux. Les premières paroles qu'il échangeait avec Antoinette n'étaient jamais de bienvenue. Il lui demandait un renseignement quelconque. « Dossé, est-il venu ?» Ou « Y a-t-il une lettre pour moi ?» Ou encore, poser cette interrogation morne, toujours accueillie par un hochement de tête, « Quoi de neuf ?» Au milieu de la petite allée parsemée de cailloux blancs, l'entrepreneur s'arrêta de nouveau pour examiner cette fois un des arceaux qui bordait le chemin et qui était à demi sorti de terre. Il le redressa, puis l'enfonça à coups de talon en maugréant. Les parterres de fleurs, les arbres, le laissaient indifférent. Seuls, les pierres taillées, le fer l'intéressaient. Jean Michelet monta les quelques marches qui conduisaient à la terrasse de sa villa. Celle-ci était entourée d'un mur de 80 cm de hauteur, découpé en denticules à la manière des silhouettes de châteaux. Des tubes creux de fer reliaient chaque dent. Mais au lieu d'être pris dans le ciment, ils jouaient ainsi que la tige de métal de la sonnette dans un fourreau qui, lui, faisait corps avec le ciment. Ce détail, en apparence insignifiant, éclaire l'esprit de l'entrepreneur. Il est des boulangers qui cuisent pour leur famille un pain spécial, des maroquiniers dont le portefeuille ne ressemble à aucun autre. Architecte et entrepreneur, Jean Michelet avait voulu, en ce qui concerne sa villa, atteindre à la perfection, à une perfection que l'on eût pu espérer sans être de la partie. Tout avait été prévu, pesé, calculé. Et ces tubes de fer, qu'il eût été si simple de fixer directement dans le ciment, pouvaient à présent se dilater au soleil. Grâce au fourreau, les dents ne risquaient point de se fendre. « Tu n'es pas en avance !» lui dit sa femme en venant à sa rencontre. « Je ne suis pas en avance, Comment donc je ne suis pas en avance? Je n'ai pas à être en avance. Le dîner est-il prêt seulement? Naturellement. Es-tu passé chez Daniel? Ce n'est pas fini. Je l'ai prévenu que tu ne serais pas contente. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? À l'avenir, vous direz à madame qu'elle s'adresse 12 rue Saint-Honoré. C'est une maison qui travaille beaucoup plus vite que la mienne. Qu'est-ce que tu as répondu? Que j'avais justement l'intention de te le conseiller. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien, rien. Il était plutôt ennuyé. Jean pénétra dans la salle à manger. Tout y était en ordre, mais d'une froideur désespérante. Aucun fauteuil, aucun tapis ne donnait envie de s'attarder dans cette pièce. Et les enfants? Ils sont couchés. Ah, je ne t'ai pas dit, la petite a lancé un caillou contre un carreau. Il n'est pas cassé, mais il est quand même fendu. Bien, il faudra la punir. Demain, j'enverrai mon vitrier. Jean Michelet se rendit dans son bureau, fit quelques pas de long en large, puis s'accouda à la fenêtre. À une cinquantaine de mètres, on pouvait apercevoir, à travers les taillis, une petite maison de briques qui, par rapport à la route, se trouvait derrière la villa, la villa. C'était un pavillon sans étage, sans fondation, auquel on accédait par un sentier côtoyant la propriété de l'entrepreneur et dont l'adresse était Pavillon Rose, 180 terres, boulevard Binot, sentier des Fleurs. Il appartenait à M. Dossé. Celui-ci l'avait acheté, il y avait une trentaine d'années, ainsi que plusieurs hectares de terrain, afin de s'en servir de petite maison de campagne, mais il ne tarda pas à l'habiter toute l'année, tellement il s'y plaisait. Cette région était alors déserte, bien qu'agréable et toute proche de la Seine. M. Dossé recevait chaque dimanche des amis ou des parents, avec lesquels il buvait et conversait sous une tonnelle, aujourd'hui disparue. Peu à peu, des maisons avaient surgi, le terrain prit de la valeur, si bien que M. Dossé ne se tint bientôt plus de joie d'avoir fait une si bonne affaire, d'avoir eu tant de flair. Ayant hérité, quelques mois après la guerre, un immeuble à Paris, il fit expulser un des locataires de cette maison en vertu d'une loi qui l'autorisait à le faire du moment qu'il fournissait la preuve que c'était pour son usage personnel qu'il réclamait ce local et vint habiter Paris. Ce M. Dossé était le type de l'homme qui s'adapte aux circonstances et qui, bien que son origine le pousse à s'élever contre des procédés malhonnêtes, s'applique à imiter les hommes, se montrant même, dans son zèle, plus roué qu'eux, non par lucre, mais par peur de n'avoir pas l'air de vivre avec son temps. Donc, en quittant ce pavillon humide et mal construit, il n'emporta que ce qui avait de la valeur, laissa de vieux meubles, un lit au sommier moisi, un peu de vaisselle, et par l'intermédiaire d'une agence, à qui il laissait la liberté de fixer le prix, dont la part dépassant le minimum imposé par lui serait partagée pendant la première année, il loua en meublé. Ce fut ainsi que Madame Auriol et sa fille vinrent habiter ce pavillon, succédant à de nombreux locataires qui y avaient déjà fait des séjours plus ou moins longs. Comme les citadins à qui la peur d'une révolution fait acheter une ferme et qui aménagent un four de boulanger dans une étable, M. Dossé rêvait de vivre sans le concours de personne. Bien que cela lui revînt plus cher, il faisait cultiver le jardin entourant le pavillon, dans lequel, d'ailleurs, les locataires n'avaient pas le droit de se rendre, par un ouvrier à la journée, tellement il était heureux d'aller, le matin, chercher les légumes dont il avait besoin pour la journée. Se passer de tout le monde était pour lui le but auquel doit tendre tout homme. Les peines d'autrui le laissaient complètement indifférent. Grâce à une obscure croyance, celle que l'idéal est de vivre comme lui, et que si le monde se résolvait à l'imiter, c'en était fini des guerres et de la souffrance, il excusait son égoïsme. Ses biens étaient dispersés dans la région parisienne. Il possédait en outre une petite propriété à Gargan, où il passait l'été, et où le vieil oncle, qui y demeurait toute l'année, était chargé de traire les deux chèvres et de lui faire parvenir le lait, un garage à Villemomble, et dans le 18e arrondissement, un autre immeuble dont il n'avait pu augmenter les loyers à cause de la prorogation accordée jusqu'en 1931, mais qu'il se réservait bien de quintupler. Et il employait ses journées à courir de l'une de ces villes à l'autre, emportant d'ici un panier de fruits, de là un outil oublié, de là encore quelques lettres ou factures. Sa dernière locataire, Madame Auriol, était une femme encore jeune, dont la distinction et la réserve lui imposaient un vague respect, ainsi d'ailleurs qu'à Jean Michelet. Ce dernier, lorsqu'il la rencontrait, la saluait, et par une fierté enfantine, il lui arrivait souvent de rebrousser chemin et d'entrer chez lui sans raison, simplement pour montrer à cette étrangère qu'il habitait vraiment là et que, si sa mise semblait bien grossière à côté de celle de la jeune femme, sa demeure, par contre, comparée au misérable pavillon, équilibrait la balance. Quelquefois, M. Dossé, à qui M. Michelet avait acheté le terrain en bordure du boulevard, ce qui expliquait que le pavillon se trouvait isolé, sans autre débouché sur la rue que c'était trois sentiers des fleurs, derrière la villa, venait rendre visite à l'entrepreneur. Les deux hommes ne manquaient alors jamais de parler de Madame Auriol. Jean avait appris ainsi que cette Madame Auriol avait appartenu à la bonne société, qu'elle connaissait les châteaux de la Loire, Venise, Montreux, qu'elle avait sans doute perdu sa fortune, mais qu'elle était très fière, que jamais elle ne demandait quoi que ce fût, qu'elle réglait toujours à date fixe son loyer, qu'elle ne devait pas s'appeler Madame Auriol, mais Penton ou Pennington, et qu'elle était anglaise.